Bravo, scu!
Rue Saint-Sulpice. Norma était fabricant d'images de piété. Il avait 4 mètres de vitrine dans la rue Saint-Sulpice et des ateliers de photographie donnant sur l'arrière-cour. Un matin, après avoir consulté les statistiques de la vente, il prit le cornet acoustique le reliant à l'atelier H.
Priez, monsieur Aubinard, de descendre immédiatement au magasin.
En attendant son chef d'atelier, monsieur Norma inscrivit des chiffres sur une feuille de papier brouillon.
Monsieur Aubinard, je vous ai fait appeler pour vous communiquer les dernières statistiques de la vente. En ce qui concerne le rayon des Christ et celui des Saint Jean-Baptiste, elles sont mauvaises. Je dirais même qu'elles sont déplorables. Dans les 6 derniers mois, nous avons sorti 47 000 Jésus adultes contre 68 000 écoulés pendant la même période de l'année dernière. Et le débit des Saint Jean-Baptiste a baissé de 8 800. Notez que cette chute verticale suit de très près l'amélioration de notre aménagement photographique où nous avons, sur vos instances, engagé de lourdes dépenses.
Aubinard eut un geste de lassitude qui trahissait des préoccupations plus hautes que celles du patron.
La crise, c'est sûrement la crise, monsieur Norma.
Monsieur Norma, le visage empourpré, quitta son fauteuil et marcha sur Aubinard avec un air menaçant.
Non, monsieur, il n'y a pas de crise dans le commerce des objets de piété. C'est un mensonge odieux. Comment osez-vous parler de crise pour nos spécialités quand tous les honnêtes gens brûlent des cierges pour la reprise des affaires et essaient de se confiner le ciel par la présence de notre Seigneur? Alors,
Aubinard donnait des signes d'impatience et il explosa.
Ce qu'il y a, c'est qu'on ne trouve plus un Christ sur la place de Paris. Fini, je vous dis. Il n'y en a plus. Qui est-ce qui porte la barbe aujourd'hui? Des députés ou des employés de ministère? Une douzaine de rapins qui ont des gueules de voyous? Vous cherchez un bon garçon dans la purée? Bon, je suppose que vous l'avez rencontré et qu'il accepte l'affaire. Vous perdez d'abord 15 jours en attendant qu'il lui vienne du poil au menton. Et quand il lui a laissé pousser sa barbe, il a l'air d'un capucin rigoleur ou d'un pharmacien en deuil.
Oh, on n'imagine pas ce qu'il peut y avoir de déchets là-dedans. Tenez, rien que le mois dernier, j'en ai usé 6, et pour ne rien faire de propre. Ah, ceux qui travaillent sur les apôtres ou sur les saintes ne connaissent pas ces ennuis-là. Le vieillard est toujours le vieillard, et le client n'y regarde pas de trop près quand il s'agit d'un apôtre. Aussi bien, il ne manque pas de petites garces qui sachent vous prendre des airs de pucelle.
Monsieur Norma allongea une moue ennuyée. Il n'aimait pas que le personnel de la maison s'exprimât dans un langage aussi cru. Monsieur Norma, pensif, quitta son bureau et les mains derrière le dos, arpenta nerveusement la boutique. Aubinard laissait errer dans la vitrine un regard vague et mélancolique, rêvant au visage idéal dont le dessin le poursuivrait jusque dans son sommeil. Tout à coup, il eut une émotion violente. Entre le portrait du pape et l'effigie de la petite sœur Thérèse, le Christ soufflait une buée fine sur la glace de la vitrine. Il avait un faux col dur et un chapeau mou, mais Aubinard ne s'y trompa point. Il courut à la porte d'entrée, fit un pas sur le trottoir et se trouva face à un homme frileux, aux vêtements pauvres mais décents. Son visage résigné, aux yeux tendres et sans ironie, était encadré d'une barbe fine. Aubinard, immobile devant la porte, le dévorait du regard. L'homme sentit ce regard insistant. Il baissa la tête, eut un mouvement peureux et fit un pas pour s'éloigner. Aubinard fit un bond de fauve et, le saisissant par le bras, lui fit faire volte-face. Mais l'inconnu leva sur lui des yeux si craintifs, si douloureux, que le chef d'atelier fut bouleversé.
Je vous demande pardon, je vous ai peut-être fait mal.
Non, ça va. Et il ajouta avec une modestie mélancolique, j'en ai vu bien d'autres.
C'est vrai, Vous avez l'air encore troublé.
Ils se regardèrent en silence. L'homme ne semblait même pas attendre une explication, comme s'il s'abandonnait à la suite d'une aventure nouée depuis le commencement des temps. Aubinard avait la gorge serrée par la pitié et par un remords inexplicable. Il proposa timidement
« Il fait froid ce matin. Vous avez peut-être froid si vous voulez entrer un moment ?»«
Oh oui, je veux bien. » Comme ils entraient, Monsieur Norma jeta sur l'inconnu un regard soupçonneux et interrogea du fond de la boutique.
« Qu'est-ce que c'est que ça ?»
Aubinard ne répondit pas. Pourtant, il avait entendu la question. Mais il se sentait tout d'un coup plein d'hostilité à l'égard du patron. Il s'empressait autour de son hôte avec des prévenances qui irritaient Monsieur Norma.
« Je suis sûr que vous êtes fatigué. Si, si, très fatigué. Venez, venez vous asseoir là, je vous en prie. »
Avec précaution, il le conduisit vers le bureau et le fit asseoir dans le fauteuil du patron. Monsieur Norma eut un haut-le-corps en marchant vers son bureau et répéta d'une voix hargneuse.
« Mais qu'est-ce que c'est que ça ?»«
Alors, Monsieur Norma, non ! Vous ne voyez pas que c'est le Christ ?» jeta Aubinard par-dessus son épaule avec indignation. L'homme paraissait gêné du double examen dont il était l'objet. Son regard anxieux impressionnait encore Aubinard qui se sentait mal à l'aise pour l'interroger. Mais Monsieur Norma le fit à sa place.
Qu'est-ce que vous faisiez avant ? Et comment vous appelez-vous d'abord ?
Machelier, monsieur. M'appelle Machelier. Répondit l'inconnu d'une voix humble, comme pour faire oublier la première question. Monsieur Norma répéta le nom plusieurs fois pour s'assurer qu'il rendait un son honnête.
Machelier, Machelier. Machelier, Machelier.
Et il s'adressa à Aubinard.
Bon. Tâchez de l'avoir à l'œil. Avec ces gens-là, on a toujours des surprises. On ne sait même pas d'où ils sortent.
Machelier eut un mouvement de colère et s'arracha du fauteuil. Je sors de prison. Et je ne vous dois rien. Il se dirigea vers la porte. Aubinard le rejoignit et le prenant par le bras, le remit dans le fauteuil du patron. Machelier se laissa faire sans résistance, étonné de sa propre audace. Songeant à ses statistiques dans son coin, Monsieur Norma regrettait son imprudence.
20 francs par jour. 20 francs. Est-ce que ça vous irait, ça ?
Machelier ne parut pas entendre.
Bien. Vous voulez 25 francs, c'est bien, on vous les donnera. 25 francs.
Machelier demeurait muet, affaissé sur son siège. Aubinard se pencha et lui dit doucement.
Le patron vous propose 25 francs par jour. D'habitude, on ne donne que 20 francs. Allons, c'est dit, 25 francs. Venez avec moi à l'atelier, le travail n'est pas difficile, vous verrez.
Et les deux hommes quittèrent le magasin. Après avoir traversé une cour, ils s'engagèrent dans un escalier obscur. Vous savez, ils m'ont donné 6 mois sans sursis, disait Machelier. Oh, c'était pas trop pour ce que je leur avais fait, c'était pas pour ça. En prison, j'avais fait des économies, mais maintenant...
On vous paiera tout à l'heure. 2 jours d'avance, si vous voulez.
Ils arrivaient à un palier. Machelier s'arrêta. J'ai faim. J'ai très faim. Il était très pâle et semblait essoufflé. Aubinard hésita et faillit céder à un mouvement de pitié, mais il songea aux possibilités qu'offrait ce visage de Christ affamé, humilié, implorant.
Quand il aura mangé, ça ne sera déjà plus ça. Faudra en profiter et le mettre en croix tout de suite.
La première séance parut interminable au patient. Les poses sur la croix étaient fatigantes et dans l'état de faiblesse où il se trouvait, il était vraiment très très fatigué. À la fin de la séance, Machelier se mit en quête d'un restaurant où il put manger à bon marché. Lorsqu'il eut dévoré 2 portions de blanquette de veau,
il lui vint un peu d'orgueil. En coupant son fromage, il évoquait un passé décent qui remontait à quelques mois avant la prison. Il était pianiste dans un café de Montmartre. Il avait des amis, les patrons lui parlaient avec déférence. Quand il saluait le public, il y avait des filles qu'il regardait avec amour. Mais, pour son malheur, le violoniste avait des cheveux noirs, brillants et ondulés. Avec ses cheveux, il avait séduit une fille que Machelier avait distinguée. Les violonistes entrent facilement dans le cœur des femmes. Ils caracolent sur l'estrade, ondulent, piquent de la tête, font des chatouilles distinguées sur la queue de leur instrument et, dans les notes fuselées, quand ils ferment les yeux en s'étirant du col, on a toujours envie de les regarder droit dans les yeux ou de regarder leurs pieds pour être sûr qu'ils ne s'envolent pas. À la fin de faire valoir ses cheveux, le violoniste avait couché avec la fille et un jour qu'il s'en vantait, Machelier lui avait entrouvert la gorge avec une paire de ciseaux le mettant à deux doigts de mourir. En achevant son repas, Machelier songeait qu'après tout le violoniste n'était pas mort puisqu'il avait repris sa place à l'orchestre. Et il lui parut qu'il trahissait sa mission d'artiste en acceptant de se déshabiller dans un atelier de photographe. Il décida que le lendemain, il irait rendre au photographe les 25 francs qu'il lui avait avancés. En montant l'atelier H, il serrait dans sa poche les 25 francs qu'il se proposait de rendre à Aubinard. Le chef l'accueillit avec amitié, presque avec déférence, et l'entraîna vers une table où étaient étalées des épreuves photographiques.
Regardez, regardez, quel travail, hein. Vous pouvez dire que vous avez été étonnant. Je n'exagère pas, franchement étonnant.
Machelier regarda longtemps les épreuves. Il était très ému. Lorsqu'Aubinard lui demanda de se préparer pour la pause, il se déshabilla sans hésitation avec un embrassement qui le surprit lui-même. On continua de le mettre en croix pendant 3 jours. Et lorsque le chef se jugea pourvu en attitude de crucifié, il lui fit faire des chemins de croix. Il était très appliqué à son travail et Aubinard s'émerveillait d'un zèle aussi intelligent. Monsieur Norma ne tarda pas à se féliciter du modèle car il obtint sur épreuve des commandes importantes de Christ en croix. À l'atelier, Machelier n'avait jamais un mouvement d'impatient. Il était doux, serviable et cherchait toutes les occasions d'obliger ses compagnons. Chacun aimait sa douceur et respectait sa mélancolie. L'on s'accordait à dire qu'il avait bien choisi son emploi. Il était même si bien adapté à son personnage que les employés s'étonnaient à peine de la bizarrerie de ses propos. Aubinard, de son côté, qui avait de l'affection pour son modèle, s'en inquiétait parfois et lui disait doucement:
Machelier, il ne faudrait tout de même pas vous figurer que c'est arrivé tout cela, hein ?
Un matin, Saint-Pierre entra dans l'atelier H où il venait demander un renseignement de la part du chef de l'atelier B. Il avait gardé sur la tête son auréole en carton. À son départ, Machelier l'accompagna jusqu'à la porte et lui dit:
Va, Pierre, va. D'une voix grave qui étonna le bonhomme.
Dans la rue, Machelier souffrait à chaque instant de l'indifférence des passants à son égard, non par orgueil humain, mais par miséricorde. En passant devant les églises, il tenait aux mendiants des propos obscurs et les comblait de promesses glorieuses.
« Faites-moi seulement une petite charité, rien qu'une petite charité, monsieur !»
lui dit un mendiant de Saint-Germain-des-Prés. Machelier lui montra un homme cossu qui montait dans son automobile. « Regarde, tu es plus riche que lui, 100 fois, 1000 fois plus riche. » Et le mendiant le traita de fumier. Et Machelier s'en alla en penchant la tête sur son épaule, sans rancune, mais l'âme accablée de tristesse. Un soir, qu'il était dans sa chambre, il pensa à ses parents qui étaient morts et se demanda s'ils étaient au ciel. Il se tourna alors vers son image pour lui recommander les deux âmes en peine, puis il se ravisa et hocha la tête avec un sourire confiant comme pour dire « C'est inutile, j'arrangerai l'affaire. » Le chef d'atelier n'était pas loin d'avoir épuisé avec son modèle toutes les pauses raisonnables et prévoyait qu'il lui faudrait bientôt s'en séparer. D'ailleurs, Machelier avait engraissé et même pour un Christ triomphant, il avait des joues un peu pleines. Un matin, Aubinard le faisant poser en buste avec une auréole et un gros cœur en carton pendu au cou, lorsque M. Norma entra dans l'atelier. Examinant les derniers clichés, il fit observer à Aubinard.
Ils sont très loin de valoir les premiers. En effet. Je crois qu'on ferait bien d'arrêter les Christ. Nous avons maintenant une belle collection qui bat de loin tout ce qu'on a fait dans le genre et je ne vois vraiment rien d'utile à y ajouter d'autre.
C'est ce que je pensais moi-même, monsieur Norma. Aussi, voyez-vous, depuis 3 jours, je n'ai rien fait d'important.
Eh bien, il vous reste maintenant à travailler le Saint-Jean-Baptiste. C'est un article très demandé et nous sommes d'une faiblesse déplorable, je vous l'ai déjà signalé. Il faut pourtant que nous ayons quelque chose de propre à donner à nos voyageurs le mois prochain.
Pour le mois prochain, c'est un peu court, monsieur Norma. Il faudrait une chance extraordinaire, une rencontre comme celle de mon Christ.
Aubinard jeta un regard de gratitude sur son Christ qui attendait en caressant son cœur de carton. Machelier ne se départait de sa mansuétude habituelle qu'à l'égard du patron. Il le supportait avec une impatience pleine de dégoût et rêvait de chasser ce marchand coloré et ventru. Aubinard, qui regardait son modèle en songeant à la difficulté de trouver un Saint-Jean-Baptiste, eut une inspiration soudaine et dit à l'apprenti
« Va me chercher un rasoir petit, un blaireau et un savon à barbe. »
À M. Norma, qui s'étonnait, il désigna Machelier.
Il est juste à point pour faire un Saint-Jean-Baptiste, vous allez voir.
Les deux hommes s'approchèrent du Christ et Aubinard lui dit.
Vous avez de la chance, ma jolie. On va vous couper la barbe et vous irez encore pour 8 jours en Saint-Jean-Baptiste.
Machelier toisa le patron avec mépris et regardant Aubinard d'un air de reproche et répondit. Je suis prêt à tout endurer, mais je ne me raserai pas la barbe. Aubinard lui présenta vainement qu'il était usé en Christ et qu'il n'y avait d'autre moyen pour le garder que de le changer en Baptiste. Machelier, qui sentait que sa divinité résidait presque tout entière dans sa barbe, se bornait à répondre. « Je ne laisserai à personne toucher un poil de ma barbe, je vous préviens. »«
Voyons, réfléchissez. Vous n'avez pas le sou, pas de situation.
Je ne me séparerai jamais de ma barbe.
« Il est buté !» Il est buté,
dit Monsieur Norma.
Allez, laissez-le tranquille, réglez-lui son compte tout de suite et qu'il débarrasse la maison, en voilà la broutille.
Lorsqu'il eut payé encore 2 journées d'hôtel, Machelier recommença d'avoir faim. D'abord, il eut quelques fiertés, puis, comme la faim devenait plus douloureuse, il douta de sa divinité. Un jour, il se souvint qu'il était pianiste et prit le chemin de Montmartre. Il se proposait vaguement de rôder autour du café où il avait pour la première fois souffert d'injustice. Machelier songeait qu'il n'était rien qu'un pauvre homme, capable d'inspirer quelque pitié à ceux qu'il avait connus autrefois. Il partit à pied et, en descendant vers les quais par la rue Bonaparte, il vit son image dans plusieurs vitrines. Il se vit portant la brebis sur ses épaules. Il se vit gravissant le calvaire, portant sa croix. Il en fut réconforti et attendri. Comme je souffre, comme je souffre, murmura-t-il en regardant sa photographie de crucifié. Passant la Seine, il retrouva son image rue de Rivoli, puis dans les environs de l'Opéra. Machelier ne sentait presque plus sa faim. Il marchait lentement, attentif aux vitrines, suspendu à l'espoir d'une nouvelle rencontre. Il se retrouva encore près de l'église de la Trinité, dans la rue de Clichy. En arrivant devant le café où il avait tenu le piano, il passa très vite, sans même regarder à l'intérieur. Il sentait qu'il était absent de cet endroit de Montmartre. Il eut envie de monter plus haut.
La fatigue et la faim lui donnaient la fièvre. Il dut se reposer plusieurs fois au cours de son ascension. Le soir tombait lorsqu'il arriva sur le mont des martyrs. Devant la basilique, les boutiquiers commençaient à ranger leurs objets de piété. Machelier eut le temps de regarder à un étalage une partie de la collection qu'il avait fournie à Aubinard. Il y avait un bon pasteur, un Christ aux enfants, un Jésus au jardin des oliviers, tout un chemin de croix, et dans un cadre de bois noir, un agrandissement de son martyre. Machelier en était ébloui. Il alla s'appuyer à la balustrade de pierre et, en regardant Paris moutonner à ses pieds, il fut envahi par la certitude de son ubiquité. Les dernières lueurs du jour à l'occident cernaient la ville d'un mince ruban clair. Des lumières s'allumaient jusqu'au loin dans les fonds de brume. Cherchant dans l'étendue le chemin jalonné par ces images qu'il venait de parcourir, Machelier goûtait l'ivresse de se répandre dans la ville. Il sentait sa présence flotter sur le soir et écoutait le bruit de Paris qui montait comme une rumeur d'adoration. Il était près de 8 heures du soir lorsqu'il descendit de la butte. Il avait oublié qu'il était là et qu'il avait faim. Un chant d'allégresse bourdonnait à ses oreilles. Dans une rue solitaire, il rencontra un sergent de ville et tendant la main, se dirigeant vers lui d'un pas hésitant, il lui dit « C'est moi, c'est moi, c'est moi !» L'agent haussa les épaules et grommela en s'éloignant.
Bougre d'imbécile, feriez-moi de rentrer chez vous et d'embêter le monde avec vos histoires de sous-l'eau, m'avez-vous compris ?
Machelier, surpris par cet accueil, demeura une minute immobile, puis il murmura en hochant la tête. Comprends pas ? Comprends pas ? Une inquiétude soudaine le fit hésiter. Il eut envie de retourner sur ses pas vers le sommet de la colline, mais ses jambes le portaient à peine et déjà, il s'engageait dans une rue qui descendait vers une trouée de lumière. Sur le boulevard de Clichy, Machelier erra un instant parmi la foule des promeneurs. Personne ne prenait garde à lui. Et les gens qui rencontraient son regard pressaient le pas dans la crainte qu'il ne demandât une aumône. Il manqua plusieurs fois de se faire écraser et, grelottant de fièvre, alla se reposer sur un banc. Il n'avait plus qu'une angoisse, plus qu'une idée fixe. Pourquoi est-ce qu'ils ne me reconnaissent pas ? Traversant le boulevard, deux filles passèrent auprès de lui et l'accostèrent par dérision.
« Tu viens, Landru ?»
lui dit une vieille en faisant allusion à sa barbe. Et les deux filles se mirent à rire et la plus jeune ajouta
« Mais non, moi c'est Jésus-Christ, je dis c'est Jésus-Christ !»«
Oui, oui, c'est moi !» acquiesça Machelier. Délivré de son angoisse, il se leva pour faire à ses deux filles la grâce de les toucher et elles se sauvèrent en ricanant.
« Il va nous porter la poisse, le Jésus, allons-nous-en »
Machelier comprit qu'il avait encore un effort à faire pour persuader les hommes qu'il était avec eux. Il décida qu'il annoncerait d'abord la nouvelle aux pauvres et abandonna le boulevard pour descendre dans la ville. Mais il ne rencontrait point de pauvres. Il n'y avait pas un seul pauvre sur son chemin. Il s'en étonnait tout haut et arrêtait parfois les passants pour leur demander s'ils n'avaient pas vu de pauvres. Les passants n'avaient rien vu. Il ne savait pas qu'il y eût des pauvres. Il était près de minuit lorsque Machelier arriva au pont des Saints-Pères. Il ne sentait plus ni faim, ni fatigue, mais rien qu'une grave impatience. Il se souvint qu'avant de connaître Aubinard, il avait dormi sous ce pont-là et espéra y découvrir des pauvres. Descendant sur le quai, il trouva l'abri désert. Machelier se sentit si seul qu'il eut envie de pleurer. Mais sur l'autre rive, il vit passer des hommes qui s'en allaient chercher asile sous la voûte. Il fit un grand geste et cria « C'est moi ! C'est moi ! C'est moi !»
Les autres s'arrêtèrent, surpris par cet appel qui résonnait sur la pierre.
C'est moi ! Ne vous dérangez pas ! Je viens !
Il descendit l'escalier étroit qui plongeait dans l'eau.
Je viens !
Un moment, les clochards de l'autre rive virent Machelier qui marchait sur les eaux. Et quand il n'y eut plus qu'un remous sur le fleuve, ils doutèrent s'ils venaient de s'éveiller ou s'ils avaient encore devant eux la promesse d'une nuit de sommeil pour oublier leur misère. Né à Joigny, dans l'Yonne, en 1902, Marcel Aimé était le dernier d'une famille de 6 enfants. Ayant perdu sa mère à 2 ans, il fut élevé jusqu'à 8 ans par ses grands-parents maternels qui possédaient une ferme et une tuilerie à Villers-Robert, une région de forêt d'étangs et de prés. Il entra en 7e au collège de Dôle et passe son bachot en 1919. Mais une grave maladie l'oblige à interrompre les études qui auraient fait de lui un ingénieur, le laissant libre de devenir écrivain. Après des péripéties multiples, il est tour à tour journaliste, manœuvre, camelot, figurant de cinéma. Il publie Brûle-Bois, son premier roman, au Cahier de Poitiers en 1927, Aller-retour, aux éditions Gallimard, qui éditeront la majorité de ses œuvres du reste. Il aura le prix Théophraste Renaudot pour La table au crevé. C'est ce qui les signale au grand public en 1929. Son chef-d'œuvre, La jument verte, paraît en 1933. Avec une lucidité inquiète, il regarde son époque et se fait une réputation d'humoriste par ses romans et ses pièces de théâtre. Travelingue, Le chemin des écoliers, Clérambarre, La tête des autres, La mouche bleue, Maxibule. Ses recueils de nouvelles comme Le nain en 1934, Les contes du chat perché en 1939 et Le passe-muraille en 1943 font de lui un des maîtres du genre. Marcel Aimé est mort en 1967. Je vous souhaite une bonne fin de soirée sur WeFM. Je vous donne rendez-vous demain, sinon. Pour la dernière, avant des vacances bien méritées.